en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le mercredi 7 mars 2012, le Bureau des Longitudes accueillit à la Fondation Simonet et Sino del Duca Nicole Villemer pour une conférence intitulée « Le Soleil, une étoile magnétique et active, source de particules énergétiques ». Source d'énergie et de lumière, le Soleil est également riche en particules énergétiques qu'il éjecte dans le milieu interplanétaire, un phénomène que l'on appelle les éjections de masse coronale. Lors des éruptions, certaines particules vont se propager entre le Soleil et la Terre le long du champ magnétique interplanétaire et peuvent causer des dommages, notamment sur nos satellites. Astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, Nicole Villemer revient sur l'origine de ces éjections de masse et leur lien avec l'existence d'un champ magnétique à la surface du Soleil. Retrouvons tout de suite Nicole Villemer.
Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à donner cette conférence ici. Et je disais que, en fait, c'est un sujet d'actualité parce que quand je suis arrivée, j'écoutais la radio dans ma voiture et j'ai entendu le début de la tête au carré sur France Inter. Et c'était un de mes collègues du laboratoire qui passait, je ne l'ai pas entendu, et qui allait nous parler en fait d'une éruption qui a eu lieu cette nuit à 1h du matin. Donc je n'ai pas vraiment d'idée de cette éruption, mais au fur et à mesure de ma conférence, comme j'ai vu un petit peu où elle était, je vous donnerai éventuellement des informations sur ce qu'elle peut être cette éruption qu'on a eue cette nuit. Mais je peux évidemment me tromper aussi dans mes prédictions. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un aspect un peu particulier du Soleil. C'est plutôt le Soleil en tant qu'accélérateur de particules. Et on va voir que tout ce qui est lié à l'activité solaire, aux éruptions et aussi à ce qu'on appelle des éjections de masse coronale, en fait, c'est lié au fait qu'il y a un champ magnétique à la surface du Soleil. Alors ici, je vous ai mis une vue du Soleil. Alors, évidemment, c'est en fausse couleur. Je vous expliquerai ensuite que là, ce sont des observations qui sont faites donc, par un satellite américain qui s'appelle SDO, Solar Dynamics Observatory, qui envoie une grande quantité d'informations sur l'atmosphère du Soleil. Et en fait, donc, ces observations sont faites dans des raies en extrême ultraviolet qui vous montrent en fait, la matière extrêmement chaude de l'atmosphère solaire. Et c'est dans ces longueurs d'onde qu'on voit particulièrement bien l'activité solaire. Donc cette observation, c'est une observation du 7 juin 2010. Alors pendant quelques temps, on a entendu pas mal à la radio des émissions sur le fait que le Soleil n'était pas très actif, que le cycle avait du mal à redémarrer. Et bien en fait, maintenant ça y est, l'activité solaire est en train de remonter et on a eu pas mal d'éruptions assez importantes depuis début 2010 et donc une cette nuit. Voilà, donc ce dont je vais vous parler au niveau du Soleil, c'est une vision qui est assez loin de la vision des photographes ou poétiques. Donc là, on a par exemple un coucher de Soleil avec Montmartre devant. Et en fait, donc, ce dont je voulais parler, c'est plutôt des phénomènes qui se passent dans l'atmosphère du Soleil et qui sont liés donc à la présence de taches à la surface du Soleil. Et ces taches, ici vous avez un gros plan sur une région du Soleil et vous voyez donc ce qu'on appelle les taches. Et on sait depuis un certain temps que ces taches sont liées en fait à la concentration de champs magnétiques à la surface du Soleil. En liaison donc avec ces champs magnétiques et les phénomènes d'activité qu'on a à la surface du Soleil, on a tout un tas de phénomènes qui peuvent éventuellement avoir des répercussions dans l'environnement terrestre. Et ce sont par exemple les aurores boréales, qui sont un autre phénomène que l'on peut observer, en particulier dans les régions nordiques, et qui sont liés à l'activité solaire. En fait, bon, c'est un processus un petit peu compliqué. J'en dirai quelques mots à la fin de mon exposé. Mais ces aurores boréales, en fait, sont liées à la précipitation d'électrons dans l'atmosphère solaire, les électrons étant liés à l'activité solaire par un processus un petit peu compliqué. Alors, bon, juste pour quelques éléments de base sur le Soleil. Donc, le Soleil, c'est une étoile. Donc, comme toutes les étoiles, le Soleil fournit sa propre énergie. À l'intérieur de l'étoile, dans le cœur, qu'on verra sur la diapositive suivante, dans le milieu est extrêmement chaud, 15 millions de degrés, extrêmement dense. Et dans ce milieu très chaud et très dense, ont lieu des réactions nucléaires de fusion d'hydrogène en hélium, ce qu'on essaye de faire dans les laboratoires de physique. Les étoiles font ça naturellement. Et donc le Soleil, comme toutes les étoiles, génère son énergie par fusion d'hydrogène en hélium. Donc la fiche d'identité du Soleil, quelques éléments, son âge 4,5 milliards d'années, le rayon de l'étoile, c'est-à-dire le rayon de ce qu'on appelle la photosphère, la boule à partir de laquelle la lumière sort de l'étoile, donc c'est 696 000 km, 110 fois le rayon de la Terre, la masse 3000 fois la masse de la Terre. La composition chimique du Soleil, c'est essentiellement de l'hydrogène, de l'hélium et quelques éléments tels que l'oxygène, carbone, azote, magnésium. Un point important, c'est la luminosité, donc l'énergie lumineuse rayonnée par le Soleil, qui est de l'ordre de 4, 10 puissance 23, c'est 10 avec 23 zéros derrière kilowatts. Alors là, je pense que je n'aurai pas trop le temps d'en parler dans cette conférence, mais je vais vous dire que cette luminosité du Soleil, en fait, elle est mesurée depuis les années 75 à bord de satellites, et que, en fait, cette luminosité qu'on appelle constante solaire, elle varie un peu au cours du temps, en fonction donc du cycle d'activité dont je vais vous parler. Mais cette variation de luminosité, c'est de l'ordre de 0,1%, donc c'est très faible. Et c'est quelque chose qu'on mesure à bord de satellites seulement depuis les années 75. La température à la surface de l'étoile, de l'ordre de 6000 degrés. Donc, un corps relativement chaud. Et comme on le verra sur quelques-unes de mes diapos, le Soleil tourne sur lui-même. Et la différence par rapport à la Terre, c'est que les régions qui sont à l'équateur tournent plus vite que les régions polaires. Et c'est ce qu'on appelle la rotation différentielle. Et ça, c'est un rôle important pour le Soleil et puis pour d'autres étoiles, parce que cette rotation différentielle est un des ingrédients fondamentaux pour expliquer la génération du champ magnétique dans les étoiles et dans le Soleil. Donc, avant de passer à ce qui se passe à la surface du Soleil, je vais vous donner donc quelques indications sur l'intérieur du Soleil, donc à l'intérieur de cette boule. Donc, la structure interne du Soleil, donc un cœur extrêmement chaud, 15 millions de degrés, dans lequel vous avez des réactions de fusion d'hydrogène en hélium. Donc il y a à peu près 610 millions de tonnes d'hydrogène qui sont brûlées par seconde pour générer l'énergie du Soleil. Le transport de l'énergie libérée par les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile se font par deux modes de transport radiatif, c'est-à-dire émission, absorption et émission successive de grains de lumière, de photons. En fait, ce parcours est extrêmement long, c'est extrêmement difficile pour les photons de s'échapper de l'intérieur du Soleil, et la durée, le temps qui est nécessaire pour l'énergie pour arriver à la base de la deuxième zone qu'on appelle la zone convective est de l'ordre de 170 000 ans. Donc en fait, il faut 170 000 ans pour que l'énergie qui est générée dans le cœur de l'étoile par fusion nucléaire arrive quasiment à la surface de l'étoile. Ensuite, au-delà de cette zone radiative, l'énergie, la chaleur, est transportée par convection dans cette zone qu'on appelle la zone convective, c'est-à-dire que les bulles de matière chaude montent à la surface, libèrent l'énergie et redescendent. C'est un peu comme quand vous chauffez une casserole, vous avez des bulles d'eau qui montent du bas de la casserole vers l'extérieur, bien ici, là, c'est la matière solaire qui monte. Alors, cet apport d'énergie par convection, en fait, il est visible lorsqu'on observe la surface du Soleil, évidemment avec un télescope. Alors là, ce sont des observations qui ont été faites au pic du midi. Donc là, c'est un détail de la surface du Soleil. La taille à peu près des granules qu'on voit là, c'est à peu près 1000 km, donc la taille de la France. Et en fait, donc, ce que l'on voit quand on observe la surface du Soleil avec des télescopes sont des mouvements de matière. Donc, vous voyez des granules qui apparaissent et qui disparaissent. Et ça, c'est lié donc à l'apport d'énergie à la surface du Soleil par les mouvements de matière, donc l'énergie qui vient de l'intérieur. Alors, la durée de vie de ces granules, c'est de l'ordre de 10 à 15 minutes. Et la vitesse des granules individuelles, c'est de l'ordre de 2 km par seconde, c'est-à-dire 7200 km par heure. Alors, l'intérieur des granules est beaucoup plus brillant que les bords, comme vous le voyez, et ça, c'est lié à une différence de température entre le centre et les bords de l'ordre de 400 degrés. Donc, le Soleil, c'est d'abord une étoile qui rayonne. Et voilà ici, avant que je vous parle de ce qui se passe dans l'atmosphère, voilà ici donc une mesure qui est faite ici en dehors de l'atmosphère terrestre, donc à bord de satellites, de ce qu'on appelle l'irradiance solaire, c'est-à-dire la quantité de lumière émise par le soleil en fonction de la longueur d'onde, c'est-à-dire en fonction de la couleur du rayonnement. Alors vous savez que les rayonnements, il y a des couleurs qui sont dans le visible, donc on peut voir avec nos yeux, qui vont du bleu au rouge, mais au-delà de ces couleurs visibles, il y a les rayonnements entre guillemets invisibles, mais que l'on peut observer avec des télescopes et avec des satellites, donc vers les courtes longueurs d'onde dans l'ultraviolet et vers les grandes longueurs d'onde vers l'infrarouge. Alors voilà ici donc le rayonnement produit par le Soleil qui passe par un maximum vers des longueurs d'onde de l'ordre de 400 nanomètres, ce qui correspond en fait ici à des rayonnements qui sont maximum dans le bleu-vert. Alors en fait, quand on mesure la quantité de lumière émise par le Soleil en dehors de l'atmosphère terrestre, le maximum de l'émission est dans le bleu-vert. Et ça, si on utilise les lois de physique de rayonnement du corps noir, donc la loi de Wien, on a une correspondance entre la température d'un corps qui rayonne et la longueur d'onde où il émet le maximum de rayonnement, qui est donné par lambda t égale constante. Et donc, un corps qui émet du rayonnement maximum vers 430 nanomètres, eh bien, c'est un corps qui a une température de l'ordre de 6000 degrés. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la surface du Soleil était à 6000 degrés. Donc, le maximum d'émission du Soleil, c'est dans le bleu-vert. Et en fait, nous, on le voit jaune. Et ça, c'est lié à deux effets. D'une part, entre le haut de l'atmosphère terrestre et nous, il y a l'atmosphère terrestre, en particulier des molécules d'eau qui diffusent la lumière bleue. C'est pour ça que le ciel est bleu. Et en plus, notre œil est particulièrement sensible au jaune. Donc, en fait, on voit le Soleil jaune. Mais c'est vrai que le maximum d'émission du spectre solaire en dehors de l'atmosphère est plutôt dans le bleu-vert. Donc, voilà ce qui se passe au niveau de la surface du Soleil. Donc, maintenant, je vais vous parler plus en détail de ce qui se passe dans l'atmosphère, parce que c'est là que nous allons avoir les phénomènes qui sont liés à l'activité solaire. Donc, il y a deux choses qu'il faut savoir quand on passe dans l'atmosphère du Soleil, c'est-à-dire dans les couches qui sont au-delà de la surface. Il y a deux caractéristiques importantes à avoir en mémoire. Alors, d'une part, comme vous le voyez ici, j'ai représenté donc la température du milieu en fonction de l'altitude au-dessus de la surface. Donc, on retrouve ici à 0 degré une température proche de 6000 degrés. Mais ce que vous voyez, c'est que naturellement, la température de l'atmosphère décroît, puisque la source d'énergie est à l'intérieur, donc ça décroît bas dans l'atmosphère, mais à partir d'une certaine altitude, la température des couches de l'atmosphère solaire va se mettre à réaugmenter. Et cette augmentation de température est tout d'abord relativement faible dans les premiers 1000 km qui sont au-dessus de l'atmosphère solaire. Mais au-delà d'une certaine altitude, il va y avoir une remontée de température très importante et la température va atteindre 1 million de degrés dans l'atmosphère externe du Soleil qu'on appelle la couronne. Donc ça, c'est une particularité donc, de l'atmosphère du Soleil qu'il faut comprendre. Ça fait partie des thèmes de recherche des physiciens solaires. On appelle ça dans notre jargon comprendre le chauffage de la couronne. Ça veut dire comprendre pourquoi la couronne, l'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. Il faut savoir que c'est quelque chose qui arrive aussi dans d'autres étoiles que le Soleil, parce qu'il y a d'autres étoiles qui ont des couronnes, et les couronnes des étoiles sont plus chaudes que l'atmosphère des étoiles. Donc ça, c'est une première caractéristique. Deuxième caractéristique, quand on monte dans l'atmosphère du Soleil, il y a quelque chose de très important qui va devenir de plus en plus marqué, c'est l'existence du champ magnétique et la structuration de la matière par le champ magnétique. Et donc, toutes les structures qu'on va voir dans l'atmosphère du Soleil et toute l'évolution de ces structures, ça va être lié donc, à l'existence de ce champ magnétique. Alors, voilà à quoi ressemble le Soleil quand on regarde un petit peu les couches de l'atmosphère. Donc, ça, sont des observations qui sont faites régulièrement à Meudon, tous les jours, quand il fait beau. Mais on en fait, en fait, assez souvent. Et il y a souvent du Soleil. Il suffit qu'on ait un petit trou et on peut faire les observations. Et donc, ces observations sont faites depuis le début du XXe siècle, quasiment. Donc, on a une bonne collection d'observations du Soleil. Alors, voilà à quoi ressemble grossièrement le Soleil. En fonction donc de la lumière, du filtre qu'on va utiliser, de la longueur d'onde qu'on va sélectionner, on va voir des émissions qui sont formées à différents endroits dans l'atmosphère solaire, différentes altitudes. Alors en particulier, si vous regardez cette image violette qui est complètement à droite, l'image qui est formée à 500 km au-dessus de la surface, et on voit encore des taches solaires quand il y en a. Donc des régions où vous avez des concentrations de champs magnétiques, et autour de ces taches solaires, vous avez des régions brillantes. L'ensemble taches, régions brillantes, c'est ce qu'on appelle les régions actives. Quand on observe le Soleil dans une raie rouge de l'hydrogène, donc la raie H-alpha de l'hydrogène, celle-ci est formée plutôt à 1500 km au-dessus de la surface. Et alors, on ne voit plus les taches en général, on voit les régions actives qui sont brillantes et ces structures sombres qu'on appelle des filaments ou des protubérances et qui sont en fait de la matière dense en équilibre dans l'atmosphère du Soleil. La force qui maintient l'équilibre de ces structures, c'est une force liée au champ magnétique encore. Et donc vous verrez que quand il y a des variations de champ magnétique, ces grandes structures, ces protubérances, peuvent s'envoler, être éjectées du Soleil et éventuellement donner lieu à ce qu'on appelle des éjections de masse coronale, qui sont des événements beaucoup plus importants qui peuvent arriver jusqu'à l'orbite terrestre. Donc j'avais parlé de la couronne du Soleil, donc c'est la couche la plus externe. Donc c'est l'atmosphère que l'on peut voir quand on a la chance d'avoir une éclipse totale. Malheureusement, il n'y a pas des éclipses totales tous les jours. Et pour observer donc la couronne, on a l'instinct français qui s'appelle Bernard Yeo, qui a inventé un instrument qui s'appelle le coronographe, qui fait des éclipses artificielles du Soleil. Et à l'heure actuelle, en fait, dans tous les observatoires solaires et sur de nombreux satellites, il y a tout un tas de coronographes pour pouvoir donc observer cette atmosphère externe du Soleil et son évolution. Alors, la couronne, en fait, donc c'est, comme je l'ai dit, c'est un plasma très chaud, 1 million de degrés, beaucoup plus chaud que la surface, et structuré donc toujours par ce fameux champ magnétique. Cette couronne, quand on l'observe avec des coronographes en lumière blanche, en fait, l'intensité de la lumière que l'on voit est en fait caractéristique de la densité du milieu. Donc plus on voit une émission blanche, et plus ça veut dire qu'on a une structure qui est dense. Et pourquoi cette structure ici qu'on appelle un jet est-il plus dense que le reste de la couronne? Eh bien c'est parce que justement il y a des lignes de champ magnétique que l'on peut imaginer, mais qui confinent la matière à l'intérieur de ces jets. Alors voilà donc une protubérance vue en H-alpha. Donc, toujours pour vous donner quelques indications sur cette atmosphère du Soleil, sur la façon dont on l'observe. Donc, comme c'est un milieu qui est très chaud, 1 million de degrés, elle émet naturellement des rayons X et UV que l'on peut observer à partir des instruments à bord de satellites et aussi des ondes radio qu'on peut observer à Nancy. Et donc, pour étudier l'atmosphère du Soleil et son activité, on va faire appel de plus en plus à des observations satellitaires dans le domaine des rayons X et UV. Et suivant donc les instruments et la longueur d'onde, on va avoir des images complètement différentes du Soleil. Alors voilà ici donc à quoi ressemble l'atmosphère du Soleil quand on l'observe avec différents instruments. Donc à droite, ici, vous avez ce qu'on appelle donc, le Soleil observé en lumière blanche, c'est-à-dire dans le continuum visible. C'est comme si on observait le Soleil avec un télescope. C'est là où, quand vous avez de l'activité, vous avez donc ces taches. Ensuite, à bord des satellites, en particulier le satellite SO, qui est un satellite ESA-NASA, qui surveille le Soleil depuis 1996, on observe l'atmosphère du Soleil dans différentes raies qui sont dans le domaine ultraviolet. Donc des raies que vous avez ici sont des raies du fer ou de l'hélium, mais ce n'est pas ça le point important. Le point important, c'est que ces différentes raies vous donnent des indications sur la matière dans le Soleil qui est portée à une certaine température, donc des températures de l'ordre de 10 000 à 1 million de degrés. Et donc ce que vous voyez ici sont les différentes régions dans la couronne du Soleil. Vous voyez qu'il y a des régions qui sont plus brillantes que d'autres, donc c'est associé, donc ce n'est pas l'image du même jour, mais en dessous, ici, vous auriez une région active. Donc voilà, ici, vous avez les régions actives observées dans la basse couronne en rayonnement extrême ultraviolet. Et ici, vous avez une image du Soleil en rayon X. Donc là, ça vous donne des diagnostics de la couronne à 1 million de degrés. Donc ce sont des observations qui ont été faites par des satellites japonais, qui s'appellent Yoko. Et à l'heure actuelle, il y a un autre satellite japonais qui s'appelle Inode, qui surveille aussi le Soleil en rayon X. Donc le Soleil, c'est une étoile active. Donc là, je vous ai montré les différentes structures qu'on trouve dans l'atmosphère du Soleil et comment on peut observer finalement les différentes couches de l'atmosphère en observant le Soleil dans différentes longueurs d'onde. Ici, c'est donc un petit film qui vous montre donc une observation faite en juin 2010 par donc le satellite Solar Dynamic Observatory. En fait, là, vous avez un détail du Soleil, ici, c'est le bord, et vous avez trois couleurs d'image, en fait. Donc, vous avez ici des images à différentes couleurs, bleu, vert, rouge. Je dis ce sont des fausses couleurs parce que chaque image est en fait une image prise dans une longueur d'onde extrême ultraviolet différente qui est émise par de la matière à différentes températures. Donc, ce que vous voyez en rouge, ça va être de la matière à 2 millions de degrés dans la couronne, en vert 1,5 million de degrés et en bleu 60 000 degrés. Donc, avec le temps, vous allez voir l'éjection d'une bulle de matière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. Et puis, vous voyez qu'après, on voit de la matière qui retombe sur le Soleil. Donc ça, ce sont des observations absolument magnifiques qui sont faites par SDO. Il faut comprendre comment cette matière est éjectée et quelle est la dynamique de cette matière. Et ça, pour faire cela, on a besoin de faire des modélisations. Et ça, ce sont des travaux que l'on fait dans mon laboratoire, des modélisations de ces éjections de matière coronale. Donc, la durée de ce type de phénomène, ici, c'est de l'ordre de quelques heures. Et donc, vous voyez qu'il y a de la matière qui est à la fois brillante et de la matière qui est sombre. Et la matière que l'on voit retomber qui est sombre, c'est en fait de la matière qui est plus froide que le milieu extérieur. Donc, vous voyez que vous avez un milieu qui est complètement hétérogène en termes de température et de densité et très évolutif. Donc, le Soleil est une étoile magnétique. Alors, je vous ai parlé jusqu'à présent des tâches, des régions actives, et je vous ai dit ces tâches et ces régions actives existent parce que nous avons du champ magnétique dans ces régions. Alors, en fait, on peut mesurer le champ magnétique à la surface de l'étoile en utilisant la lumière qui est émise par l'étoile et la polarisation de la lumière et en utilisant un effet de physique atomique qui s'appelle l'effet Zeeman. Et donc, à partir de cet effet de physique atomique et de la polarisation du rayonnement, on peut remonter au champ magnétique qui existe à la surface du Soleil. Alors, ce que vous voyez ici, donc, c'est une image du Soleil qui est faite avec ces mesures de champ magnétique, qui est faite là par une expérience toujours à bord de SOHO. Et ce que vous voyez ici, donc, si j'avais une image en lumière blanche, j'aurais une région active ici avec des taches. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez des taches ici qui sont blanches et noires qui vous montrent des concentrations de champs magnétiques de sens opposés. Donc, c'est comme le champ magnétique d'un aimant, sauf que ça se passe au niveau de la surface du Soleil. Donc, on a un pôle plus et un pôle moins. Et ici, on a une région dans laquelle on a une grande concentration de champs magnétiques. Là où vous avez du gris, un petit peu partout sur le Soleil, sont des régions où le champ magnétique est moins intense. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que les régions où vous avez des champs magnétiques, ce sont des régions qui sont concentrées, localisées à la surface du Soleil. Là, on a à peu près une image par jour. On a une rotation solaire. J'ai oublié de dire que le Soleil tourne sur lui-même avec une période de 27 jours à l'équateur et 23 jours au pôle. Donc là, vous avez une rotation solaire et vous voyez donc qu'en fonction du temps, on peut avoir plus ou moins présence de taches et de champs magnétiques à la surface du Soleil. Le problème de génération et d'évolution du champ magnétique, là encore, c'est une des grandes questions de physique solaire. Mais ce qu'on sait a priori ou ce qu'on pense, c'est que ce champ magnétique est généré à l'intérieur du Soleil, à la base de la zone de convection. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le cœur, il y a la zone radiative, et puis à partir d'une certaine altitude à l'intérieur du Soleil, il y a les mouvements de matière, la zone convective qui va apporter l'énergie à la surface. Eh bien, on pense que le champ magnétique, il est généré à la base de cette zone convective, c'est-à-dire à peu près un tiers en dessous de la surface du Soleil. Donc les tâches, c'est une des manifestations externes, et ce champ magnétique, il est extrêmement variable. Et là, vous avez donc sur le film à droite un zoom sur une région active. Donc les régions qui sont blanches et noires sont des régions où vous avez des champs magnétiques extrêmement forts. Et vous voyez qu'au cours du temps, vous avez des nouvelles régions avec du champ magnétique qui apparaissent, d'autres qui disparaissent et que ça bouge quasiment tout le temps. Et donc c'est à cause de cette évolution du champ magnétique dans les régions actives et de cette complexité, parce que tout à l'heure je vous ai dit un pôle plus et un pôle moins, il y a du noir, il y a du blanc, il y a en fait du noir, du blanc et que c'est très complexe, et c'est cette complexité du champ magnétique qui va vous donner des éruptions. Donc quand on a des régions actives sur le Soleil avec beaucoup de complexité magnétique, on sait que c'est un signe qu'il peut y avoir des grosses éruptions solaires. Alors, on n'est pas encore en mesure de prédire à quel moment il va y avoir une éruption et quelle va être son intensité, mais quand on a des régions actives avec du champ magnétique compliqué, on sait que potentiellement, il va se passer quelque chose de très important à la surface du Soleil. Donc, je répète, donc, le champ magnétique, c'est un ingrédient donc, essentiel. Donc, ce champ magnétique, il est concentré dans les régions actives. Et le champ magnétique qu'on mesure dans les tâches, il est de l'ordre de 10 000 fois celui de la Terre. Donc, ce fameux champ magnétique, c'est quelque chose qui... je veux dire que quand on fait de la physique, on sait ce que c'est, mais c'est vrai que quelquefois, dans le grand public, ce n'est pas absolument évident d'expliquer ce qu'est un champ magnétique, même si pour nous, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc, le champ magnétique, pour ceux qui ont fait des études il y a un certain temps, moi je me souviens qu'on avait des aimants et qu'on mettait de la limaille de fer et on voyait la limaille de fer s'organiser suivant des lignes un peu virtuelles et ces lignes, c'était justement les lignes du champ magnétique de l'aimant. Donc quand on observe les structures dans le Soleil, on fait souvent, quand on est physicien solaire, des abus de langage parce que souvent on va dire « Ah bah vous voyez... Alors, je vais essayer de montrer ça. Voilà ici, on voit le champ magnétique en montrant cette boucle. Et en fait, ce qu'on veut dire là, c'est que c'est la matière du Soleil, une matière chaude, ionisée. Donc les électrons et les ions vivent leur vie. On est dans un plasma. Donc la matière ionisée, en fait, va tracer les lignes de champ magnétique comme la limagne de fer, dans l'expérience de physique de base, trace les lignes de champ magnétique de l'aimant. Donc en fait, ces boucles magnétiques que l'on voit souvent dans l'atmosphère solaire, on va par abus de langage parler de boucles de champ magnétique, mais en fait, on voit le gaz chaud, ionisé, qui est confiné dans les structures où vous avez du champ magnétique. Donc ces boucles, ça vous trace le champ magnétique dans la couronne du Soleil, sachant que si on mesure le champ à la surface, il est très difficile de le mesurer dans la couronne. Donc, toujours ce fameux ingrédient essentiel qui est le champ. Donc, pour rappeler ici, voilà, ici c'est une région active, vous voyez donc une tâche. Ici, vous avez le magnétogramme, donc vous voyez que vous avez des concentrations de champ magnétique. Ici, ce serait la même région active, mais observée avec une expérience à bord de satellite en rayonnement UV. Donc là, ce que vous voyez, c'est la couronne au-dessus de la tâche. Et vous voyez que là où vous avez des concentrations de champs magnétiques, vous avez des régions brillantes parce que vous avez de la matière qui est globalement plus chaude. Quand c'est brillant, c'est plus chaud que quand c'est sombre. Donc, vous avez au-dessus des régions, vous avez des concentrations de champs, vous avez des régions qui sont particulièrement brillantes et qui vous montrent là encore les régions actives. Alors, donc, comme je l'ai déjà dit, en fait, toute l'activité du Soleil, les éruptions, les éjections de masse coronale, ça va être lié au champ magnétique. Malheureusement, ce champ magnétique est difficile à mesurer. On le mesure bien, en fait, à la surface du Soleil, donc au niveau de la photosphère, mais on ne sait pas très bien le mesurer dans l'atmosphère. Et pourtant, si on voulait comprendre les phénomènes d'activité, il faudrait avoir des informations sur le champ magnétique dans l'atmosphère du Soleil. Donc, puisqu'on ne peut pas le mesurer, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise les mesures de ce champ à la surface du Soleil, et puis on développe des modèles d'extrapolation, des modèles de physique, qui vous permettent d'imaginer les lignes de champ magnétique qu'on aurait dans l'atmosphère du Soleil et qui correspondraient à ce qu'on observe au niveau de la surface. Et donc, voilà ici une image où vous avez donc une configuration magnétique et puis des lignes de champ magnétique qui sont issues de modèles et qui vous montrent comment doit être le champ magnétique dans la couronne du Soleil. Alors, cette reconstruction du champ magnétique dans l'atmosphère du Soleil, là encore, sont des sujets de recherche pour les physiciens solaires. Donc, je vous ai parlé des tâches, je ne vais pas passer trop de temps ici, mais c'est grâce au nombre de tâches à la surface du Soleil que l'on sait que le Soleil est un cycle d'activité. Donc celui-là, ce cycle d'activité, il a été mesuré depuis les années 1600. Et ici, vous avez donc ce qui est caractéristique du cycle d'activité, c'est le nombre de tâches à la surface du Soleil au cours du temps. Donc ici, c'est 1700-1800. On a globalement un maximum tous les 11 ans, mais ce n'est pas un cycle très exact, c'est-à-dire que ça peut être 12 ans, 13 ans. Et puis, comme vous le voyez sur cette image, le nombre de tâches au maximum n'est pas toujours le même, donc on a des cycles qui sont plus importants que d'autres. Et puis, il y a même des périodes, par exemple, entre 1740 et 1700, où c'est écrit « minimum demandeur », vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de tâches à la surface du Soleil. Et donc, effectivement, c'est une période, il y avait pourtant des observations, et c'est une période pendant laquelle il n'y a pas eu de tâches à la surface du Soleil. Alors, je n'ai pas ici prévu de vous parler du lien avec le climat sur la Terre, mais on pourrait, à l'occasion de l'observation de ce minimum, dire quelques mots sur le lien entre l'activité solaire et puis le climat. Et bon, on pourra éventuellement en discuter lors des questions. Alors, donc, ce cycle solaire, qui est lié donc en fait à la génération du champ magnétique, on le voit aussi quand on regarde la couronne solaire, par exemple avec un instrument qui observe la couronne en rayon X, tel que le faisait le satellite SOHO. Donc là, ce sont des observations de la couronne du Soleil avec le même instrument, au minimum d'activité, quand il y a très peu de tâches. Vous voyez que la couronne est extrêmement sombre, ça veut dire que globalement, elle est plus froide qu'au moment du maximum, quand vous avez beaucoup de tâches, où la couronne solaire est beaucoup plus chaude, beaucoup plus brillante. Et donc, vous voyez ici une couronne très structurée toujours par le champ magnétique. Donc là, vous avez les régions actives et en dessous, vous avez donc les tâches et toutes ces structures. Toutes ces régions, en fait, sont liées à la structure du champ magnétique. Donc, je vais maintenant vous parler des éjections de masse coronale et des éruptions. Alors, ici, ce que vous avez à droite, c'est un ensemble d'images qui sont faites par des coronographes à bord du satellite SOHO. Donc, à l'intérieur, ici, le petit cercle blanc, ce serait le Soleil tel qu'on le verrait à l'œil nu. Il est occulté par des disques de coronographe. Ici, on occulte jusqu'à 3 fois la taille du Soleil. Et ce que vous voyez à l'extérieur, en blanc sur fond bleu, c'est donc les structures de la couronne observées en lumière blanche. Et là, on voit donc c'est la lumière qui est diffusée par la matière de la couronne. Donc, ce qui est blanc, c'est très dense. C'est les structures denses, et donc les structures denses sont confinées par le champ magnétique que malheureusement on ne voit pas. Donc ici, c'est ce qui porte l'instrument, donc ça n'a pas de signification, mais ce que vous voyez ici, donc c'est les jets de la couronne. Donc si je fais marcher mon petit film, vous voyez que la couronne du Soleil, même à des distances qui vont de 3 à 30 rayons solaires, elle est extrêmement variable. Et vous venez de voir là, à droite du Soleil, une espèce de bulle de matière, et c'est ça qu'on appelle des éjections de masse coronale. Donc, ce sont des bulles de matière qui sont éjectées de la surface du Soleil avec des vitesses qui peuvent aller de 200 à 800 km par seconde. Et l'énergie qui est contenue dans ces éjections de masse coronale, on peut la calculer en calculant la masse de cette bulle de matière, sa vitesse. Et les énergies peuvent atteindre de l'ordre de 10 puissance 25 joules. Donc, c'est 10 avec 25 zéros joules. Ici, vous avez une observation d'un champ beaucoup plus réduit du Soleil, cette fois dans un rayonnement UV. Donc là, c'est un détail à la surface du Soleil. Et ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une éruption. Donc c'est la taille d'une région active. Ici, vous avez donc une lumière très intense qui arrive et aussi beaucoup de matière. Là encore, ces phénomènes donc, d'éruption solaire qui sont plus localisés à la surface du Soleil et plus localisés dans les régions actives, là aussi sont des phénomènes extrêmement énergétiques. Et l'énergie qui est libérée dans les éruptions, sous forme donc, de rayonnement, de chauffage de la matière et aussi de particules accélérées, sont des énergies extrêmement élevées, là encore de l'ordre de 10 puissance 25 joules. Donc, 10 puissance 25 joules, si je ne me suis pas trompée, c'est des millions de fois la consommation annuelle d'énergie électrique de la France. Donc, par rapport à ce que le Soleil émet en permanence dans son rayonnement standard, ce n'est pas grand-chose, mais malgré tout, ce sont des phénomènes qui sont très énergétiques et qui sont donc liés à la présence de champs magnétiques à la surface du Soleil. Donc, les éruptions solaires, elles ont été traditionnellement observée en visible à partir donc du début du XXe siècle, parce que c'était ce qu'on savait faire à l'époque, et on continue encore à observer les éruptions solaires à Meudon. Donc voilà, ici vous avez à gauche un film d'une éruption solaire en H-alpha. Donc ce que vous voyez, c'est un petit bout du Soleil, une région qui est localisée sur une région active, et vous voyez que donc au cours du temps, vous voyez donc ici l'apparition de deux régions extrêmement brillantes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les filets de l'éruption. Je vais en dire quelques mots après. Donc ces régions dans la région active deviennent extrêmement brillantes, et c'est là qu'est localisé donc l'essentiel de la libération d'énergie dans l'éruption. Mais ce que vous voyez aussi, c'est que non seulement vous avez de la matière qui devient extrêmement brillante, mais vous avez aussi beaucoup de mouvements de matière, et il y a énormément d'agitation dans ces régions actives. Donc les éruptions solaires, ça se passe dans les régions actives, et c'est là où vous avez des concentrations de champs magnétiques. Donc là encore, je crois que c'est le même film que tout à l'heure, c'est pour vous montrer, mais cette fois, c'est le champ magnétique dans la région active pour l'éruption qui est montrée à gauche. Et donc vous voyez que dans cette région, il y a des champs qui sont très, très compliqués. Et c'est à cause de cela qu'on a pas mal d'activités. Donc voilà, ici, c'est la même observation que ce que je vous ai présenté sur cette diapositive, sauf que là, vous voyez tout le Soleil. Donc en fait, ce que vous aviez sur l'image précédente, c'était un petit champ sur le Soleil qui correspondait à cette région-là. Alors, sur l'image précédente, en fait, elle était en noir et blanc, et là, cette fois, elle est en couleur, parce que la raie que l'on utilise pour faire ces images, c'est une raie rouge de hydrogène. Et donc là, l'image, elle est vraiment en rouge, alors que sur la diapo précédente, c'était du noir et blanc, mais c'est exactement la même image. Alors, voilà, ici, vous avez, dans la région active, donc l'apparition des phénomènes brillants, donc le phénomène d'éruption. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'image de gauche. Et ce que vous voyez dans l'image de droite, en fait, c'est une série d'images qu'on a faites par différentes images. C'est-à-dire qu'on prend une image à un instant T et on lui enlève l'image précédente. Et ceci, ça amplifie finalement les différences d'intensité d'une image à l'autre, et ça permet d'amplifier finalement les différences d'une image à l'autre. Et ce que vous voyez dans le film de droite, ce que vous voyez, c'est que lorsqu'on a l'éruption, donc la région active qui devient extrêmement brillante, on voit aussi une espèce d'onde de matière qui se propage à partir de la région active, enfin d'onde de matière, on ne sait pas si c'est une onde de matière en fait, on appelle ça une onde de Morton. On a une onde qui se propage à partir de la région active, donc on voit que alors qu'on a un phénomène qui est localisé dans une région active, il va pouvoir entraîner des phénomènes à bien plus grande échelle dans l'atmosphère du Soleil. Et ces ondes de Morton, en fait, quand je vous ai parlé tout à l'heure des éjections de masse coronale, donc des grosses bulles de matière qui partent du Soleil, eh bien, ces ondes de Morton, donc, qui partent d'une région active et qui se propagent à la surface du Soleil, eh bien, c'est un des signes qu'il peut y avoir une éjection de masse coronale. Alors, pour revenir à l'observation de cette nuit que je n'ai pas complètement vue, mais j'ai juste eu le temps de savoir que l'éruption, c'était une grosse éruption. C'est une éruption qui est à peu près au centre du Soleil, comme vous voyez ici. Il est possible qu'elle ait été associée à ce genre de phénomène d'onde de Morton, et il n'est pas exclu qu'il y ait une éjection de matière qui ait été produite en même temps que l'éruption et qui se propage vers nous à l'heure actuelle. Donc voilà ici, alors là, c'est un film de Soho. Donc, c'est des images en extrême ultraviolet, donc qui vous montrent toujours, donc cette fois maintenant, la couronne solaire, les régions actives. Et vous voyez cette région ici, qui est une région qui a donné beaucoup d'éruptions en octobre 2003. Il y avait eu une série d'éruptions extrêmement intenses entre le 28 octobre et le 2 novembre 2003. Donc, vous voyez, au cours de la rotation de cette région sur le Soleil, vous voyez que cette région-là qui va, le 28 octobre, donner des éruptions très intenses quand elle va être face à nous. Et on va ensuite donner toute une série entre le 28 octobre et le 2 novembre au cours de son évolution du centre du Soleil vers ce bord ouest. Vous voyez, donc, dans ces régions actives, on a non seulement régulièrement la matière qui devient beaucoup plus brillante, donc ça veut dire qu'il y a de l'énergie, l'énergie qui était contenue dans le champ magnétique qui a été donnée au plasma qui est chauffé, donc ça, c'est le phénomène d'éruption. Donc vous avez non seulement plusieurs fois cette région qui devient extrêmement brillante, mais vous voyez également qu'il y a plein de mouvements de matière, même d'une région active à l'autre, on voit qu'il y a des boucles magnétiques qui deviennent extrêmement brillantes. De temps en temps, vous voyez également, je vais remettre ce film, vous voyez sur ces images qui sont prises donc par un satellite qui est un petit peu en amont de la Terre, vous allez voir une espèce de pluie sur les images, voilà, par exemple ici. Et ça, en fait, cette pluie dans les images du Soleil, c'est un effet des particules, des protons, donc des protons énergétiques qui sont produits par l'éruption au niveau du Soleil, sont éjectés du Soleil, suivent les lignes de champ magnétique, toujours le fameux champ magnétique, suivent les lignes de champ magnétique du milieu interplanétaire et arrivent au niveau du satellite. Et ces protons énergétiques, quand ils arrivent sur les CDD, donc les caméras qui nous permettent de faire des images, eh bien, ça fait des effets, ça fait cette pluie sur nos images. Donc ça, ça vous montre en fait l'effet des particules qui arrivent, des particules énergétiques qui arrivent au niveau du Soleil. Donc bon, pour nous, c'est un peu gênant, mais il y a d'autres effets sur la technologie de ces protons. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on développe aussi une nouvelle discipline qu'on appelle météo de l'espace pour essayer de comprendre et de prédire l'arrivée de ces protons. On en est encore loin. Alors, juste pour donner quelques notions, donc tous ces phénomènes éruptifs, je redis ce que j'ai déjà expliqué, c'est lié donc à la présence de champs magnétiques à la surface du Soleil. En fait, il faut comprendre pourquoi d'un seul coup il va y avoir une éruption, pourquoi il va y avoir des éjections de masse coronale. Et en fait, le processus clé pour tous ces phénomènes, c'est ce qu'on va appeler un processus de reconnexion magnétique. En fait, je vous ai dit, il est important qu'il y ait du champ magnétique, mais il est aussi important que le champ magnétique soit compliqué dans la région où il va y avoir les éruptions. Compliqué, ça veut dire plusieurs polarités. Alors ici, en haut, vous avez du bleu et du rouge. Tout à l'heure, c'était blanc et noir, mais c'est pareil. C'est des polarités opposées du champ magnétique. Et vous voyez que cette répartition des champs magnétiques est assez compliquée et que, au cours du temps, là, vous avez une image par jour. Toutes ces concentrations de champs magnétiques vont évoluer. Alors en particulier, on peut remarquer que l'image à 15h58 ici, vous voyez que j'avais déjà une région bleue et rouge, et là j'ai une nouvelle région bleue et rouge qui est arrivée par rapport à tout à l'heure. C'est comme si on rajoutait, je reviens à mon analogie de l'aimant et des lignes de champs magnétiques tracées par la limaille de fer, c'est quand on a des nouvelles polarités, donc des nouveaux champs qui émergent à l'intérieur du Soleil dans une région active, c'est comme si on rajoutait le champ d'un autre aimant à l'intérieur du premier champ, et donc ça perturbe le champ magnétique du premier aimant. Ici, vous voyez que j'ai rajouté un petit aimant nord-sud à l'intérieur, et en plus il est inversé, oui, c'est bien ce que je voulais dire. Donc si vous rajoutez une polarité, ce qu'on appelle une polarité parasite, en fait vous allez avoir des lignes de champ magnétique de sens opposés, pas très loin. Si vous avez, parce qu'on a vu qu'il y a toujours des mouvements de matière à la surface du Soleil, et les mouvements de matière entraînent les lignes de champ. Donc si ces lignes de champ magnétiques de sens opposés se rapprochent, il y a un moment où on va voir le phénomène de reconnexion, c'est-à-dire que le champ magnétique va changer de connexion magnétique, donc les lignes vont se modifier, et une partie de l'énergie qui était contenue dans le champ magnétique va être donnée au milieu ambiant, au plasma ambiant, le chauffer, d'où augmentation de luminosité, éruption, et ça peut être aussi transformé en énergie de matière, donc les mouvements de matière, et on peut aussi avoir des phénomènes d'accélération de particules. Donc les éruptions solaires, les éjections de masse coronale, l'accélération de particules dans les éruptions, tout ça c'est lié en fait à l'existence de champs magnétiques et au processus de reconnexion. Et je vais maintenant vous dire quelques mots sur... Alors là, on va voir beaucoup moins de jolies images, mais c'est aussi des observations qu'on utilise pour caractériser l'importance des éruptions. Donc, je vous ai dit que la couronne du Soleil émettait naturellement du rayonnement X et que l'apparence de la couronne solaire était extrêmement variable en fonction du cycle d'activité, qu'elle pouvait être plus ou moins brillante. Mais même sur des périodes de temps beaucoup plus courte, genre la journée, eh bien, vous voyez ici, ça c'est une observation de 20 janvier 2005, vous avez deux courbes, une rouge et une bleue, ça vous montre le flux X émis par la couronne, intégré sur la couronne, c'est toute la couronne solaire qu'on mesure là, donc le flux X, la variation du flux X en fonction du temps au cours de la journée. Et ça, c'est tracé sur des échelles, les échelles qui vous indiquent l'importance, ici sont des échelles logarithmiques, ça veut dire que quand on passe d'une division ici à là, on multiplie par 10 le flux. Donc vous voyez que par exemple ici, et là c'est le temps, donc vous voyez ici que le 20 janvier 2005, sur une échelle de temps qui est de l'ordre de quelques dizaines de minutes, vous avez le flux X de la couronne du Soleil qui a été multiplié, si on regarde la courbe bleue, ça a été multiplié par 10, 100, 1000, plus de 10 000 en quelques trentaines de minutes. Ça, c'est une autre façon de visualiser les éruptions solaires. Et cette activité solaire dans le domaine des rayons X, elle est surveillée en permanence par des satellites qu'on appelle les satellites Gauss. Et par exemple, si vous écoutez, je pense qu'on a dit tout à l'heure sur France Inter que l'éruption cette nuit, c'était une éruption de classe X5 quelque chose. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est une éruption qui est presque aussi intense que celle-là, ce que vous avez ici sur le bord droit. L'intensité maximum atteinte par l'éruption, c'est ici, c'est la classe X. Donc, vous voyez qu'ici, c'était une éruption X9. Eh bien, cette nuit, on a une éruption X5, c'est-à-dire une éruption quasiment aussi importante que celle-là qui a eu lieu. Alors, en comparaison, en décembre, ben voilà les mêmes courbes et on voit que le flux du Soleil est beaucoup plus faible et beaucoup moins variable. Donc là, voilà une autre façon de voir les éruptions solaires, c'est de mesurer le rayonnement X produit dans la couronne. Et ce que vous voyez ici, donc toujours à partir de ces mesures faites sur les satellites Gauss, donc ça c'est pour le 20 janvier 2005. Alors ce n'est pas le rayonnement X de la couronne qui est mesuré ici, mais ce sont les protons énergétique, donc d'énergie supérieure à 100 mégaélectronvolts, donc ça veut dire des protons qui auraient été accélérés, si on compare à des accélérateurs sur Terre, sont des particules qui ont été accélérées dans des champs de 100 mégavolts. Donc, vous voyez que ce que ça veut dire, c'est que dans les régions actives solaires, là où vous avez de l'activité, non seulement vous avez du champ magnétique, mais vous avez aussi des champs électriques très importants, et ces champs électriques peuvent accélérer les particules du plasma, certaines s'échappent de la couronne solaire et arrivent au niveau de la Terre. Et donc là, vous voyez qu'en liaison avec donc, cette éruption X, où le flux avait augmenté d'un facteur 10 000 en quelques dizaines de minutes, eh bien, vous avez là aussi, si vous regardez la courbe verte, c'est les protons au-dessus de 100 mégaélectronvolts, vous voyez que le flux de protons il a été multiplié par là aussi 10, 100, 1000, 10 000 en quelques dizaines de minutes, au niveau de l'orbite terrestre. Alors ça, évidemment, si on avait des gens qui étaient sur la navette spatiale, ce sont des problèmes, enfin, je veux dire, l'arrivée aussi rapide d'un flux aussi important de protons, ça peut être très embêtant pour des cosmonautes qui sont sur la navette spatiale, sans imaginer peut-être de futurs voyages vers Mars. C'est le genre de problèmes qui peuvent être très, très embêtants pour des voyages interplanétaires. Et c'est vrai qu'il faut être capable de pouvoir comprendre et prédire ces phénomènes. Donc, voilà, le Soleil qui accélère les particules. Donc, ça, ce sont les particules qui s'échappent dans le milieu interplanétaire. Il y a aussi beaucoup d'observations qui sont faites toujours dans des rayonnements ionisants à partir de satellites sur les particules qui restent dans la surface du Soleil. Et ces particules, ça donne tout un tas de rayonnements qu'on observe, donc dans le domaine de ce qu'on appelle des X durs ou même dans le domaine du rayonnement gamma. Donc le Soleil est un émetteur de rayonnement à très haute énergie pendant les éruptions. Donc ici, ce que je voulais vous montrer, c'est l'éruption du 20 janvier 2005. Alors peut-être que celle de cette nuit est plus ou moins identique. Donc ce que vous voyez ici, c'est une série d'images. Donc le fond de l'image, c'est l'observation du Soleil en extrême ultraviolet, donc toujours le phénomène éruptif qui arrive. Et ce qui est superposé dessus, en fausse couleur, sont les images de l'éruption dans les rayonnements à très haute énergie. Et ça vous montre, en fait, les régions où sont accélérées et où sont produites les particules énergétiques dans les éruptions solaires. Donc, ça, ce sont des sujets de recherche qui nous intéressent aussi, c'est de comprendre. Alors voilà la neige sur les détecteurs, hein, les effets des particules. Donc c'est de comprendre comment le Soleil accélère les particules et comment ces régions d'accélération sont liées au champ magnétique. Donc voilà des images en haute énergie, donc je vais passer là-dessus. Alors, je vais dire maintenant quelques mots sur les particules qui sont produites dans les éruptions solaires et celles qui vont dans le milieu interplanétaire pour vous montrer quelques observations récentes qui sont faites avec un ensemble de satellites et qui sont assez intéressantes. Donc ici, pour vous schématiser ce qu'on appelle les relations Soleil-Terre, ici vous auriez donc le Soleil qui est schématisé par cette boule jaune avec des lignes de champ magnétique, ici des boucles magnétiques, des lignes de champ magnétique fermées, et puis ces traits blancs qui seraient des lignes de champ magnétique ouvertes vers le milieu interplanétaire et qui permettraient d'atteindre ici la Terre, qui est ici schématisé par l'intérieur, là c'est la Terre, et autour c'est le champ magnétique de la Terre et la magnétosphère qui est donc le bouclier magnétique qui nous protège en fait des effets du vent solaire et des particules. Donc ici vous auriez donc en bas, c'est l'image d'une éruption, donc l'évolution d'une éruption observée à haute énergie, donc des signatures de protons énergétiques et d'électrons énergétiques dans la région active. Ici, vous avez donc ces particules, on pense qu'elles sont accélérées donc dans la basse couronne. Certaines de ces particules, des électrons ou des protons, peuvent, ici c'est la surface du Soleil et ici c'est vers le haut, vers la Terre, certaines de ces particules peuvent s'échapper vers le milieu interplanétaire. On les détecte éventuellement par leurs émissions radio, que vous voyez là, je n'ai pas le temps de préciser comment ces émissions sont faites. Et certains protons de très haute énergie peuvent arriver au niveau de l'orbite terrestre et être détectés, voire même détectés par des moniteurs à neutrons. Donc là, ça vous montre le lien entre ce qui se passe au niveau des éruptions solaires, les particules énergétiques qui sont produites dans les éruptions solaires, et celles qui, éventuellement, peuvent être arrivées au niveau de la Terre. Alors les questions que l'on se pose, c'est de savoir si ces particules sont accélérées, les particules qu'on va voir au niveau de la Terre, est-ce qu'elles sont et qui vont nous gêner pour certaines activités, par exemple, est-ce qu'elles sont accélérées au niveau du Soleil dans la région active, ou est-ce qu'elles sont accélérées au cours de leur propagation dans le milieu interplanétaire? Alors, voilà, ici, c'est une vue qui vous explique, une vue du dessus. Donc, vous avez au centre, ici, ce serait le Soleil, et ici, c'est la Terre. Et il faut imaginer que, donc, qui est tracé ici, ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel les planètes tournent autour du Soleil. Donc les pôles magnétiques du Soleil ici et de la Terre également perpendiculaires au tableau. Et les lignes noires que vous avez tracées sont les lignes de champ magnétique dans le milieu interplanétaire. Donc les particules qui sont produites au niveau du Soleil, c'est la petite croix rouge, si elles sont injectées dans le milieu interplanétaire, ensuite elles suivent ces fameuses lignes de champ magnétique. Et pour arriver au niveau de la Terre, qui est ici, pour qu'elles soient mesurées, donc ce qui nous intéresse, nous, en tant que physiciens, ou qu'elles arrivent malheureusement sur la Terre et qu'elles perturbent tout un tas de choses, ça c'est pour les utilisateurs, eh bien il faut qu'il y ait une bonne, en principe, si on regarde ce schéma, il faut qu'il y ait une bonne connexion magnétique. Ça veut dire qu'il y a une ligne de magnétique qui relie l'endroit où les particules sont produites dans l'atmosphère solaire et la Terre. Alors ça, c'est une vision extrêmement simple, parce que si on regarde ce qui se passe, on a la chance à l'heure actuelle d'avoir la possibilité d'avoir une vision stéréoscopique du Soleil à partir donc de satellites stéréo qui ont été lancés il y a quelques années et qui sont maintenant situés à 90 degrés de la ligne Soleil-Terre. Donc ici, vous avez le Soleil, ici la Terre. Donc c'est toujours une vue du dessus, c'est-à-dire que là, ce serait le plan, c'est l'orbite de la Terre, c'est le plan de l'orbite des planètes. Ici, les pôles magnétiques du Soleil et la Terre seraient perpendiculaires au plan du tableau. Ici, vous avez la planète Mercure. Et ici, vous avez en rouge et bleu les deux satellites A et B. Donc en combinant des observations qui sont faites par des satellites au niveau de la Terre et des observations de satellites qui sont ici, sur les côtés, on a en fait une vision à trois dimensions du Soleil, une vision stéréoscopique de ce qui se passe dans l'atmosphère solaire. En particulier, on peut voir à partir de ces satellites A et B ce qui va arriver sur la Terre. Donc, pour cette observation, comme c'est dit ici, nous avions donc trois yeux dirigés vers le Soleil, les sondes stéréo, Donc là, ici, on voit une vision du Soleil, ce serait ce côté-là que l'on verrait. Sur ce satellite-là, on voit l'autre morceau du Soleil qui est là, et de la Terre, on voit celui-là. Donc en fait, on a une vision quasiment à 360 degrés de l'atmosphère du Soleil. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'il y a eu une éruption qui a été observée par ce satellite dans cette région-là. Donc ça correspond en fait à quelque chose qui serait passé sur le Soleil, là où j'ai mis ma flèche, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne pourrait pas voir de la Terre. La région active qu'on devine sur l'image à gauche correspond à quelque chose qu'on ne peut pas voir de la Terre. Eh bien, donc vous voyez, on a ces trois satellites. Voilà ici, à nouveau, donc, l'endroit où a lieu l'éruption. La Terre est là. Donc normalement, on ne devrait pas voir de particules, si ce que je vous ai expliqué est vrai, on ne devrait pas voir des satellites au niveau de la Terre en provenance de cette éruption. Et pourtant, les trois sondes ont vu des particules en liaison avec l'éruption. Donc ça, ça vous prouve qu'en fait, mon petit schéma de propagation des particules dans le milieu interplanétaire est trop simple et qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on n'est pas bien connecté qu'on ne peut pas avoir des particules qui viennent des éruptions. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que la compréhension donc, du lien entre les particules au Soleil et les particules au niveau d'un satellite au niveau de la Terre, ce sont des choses qui ne sont pas si simples que ça. Et donc, on a encore un peu de travail à faire pour comprendre ce qui se passe. Donc, je vous ai parlé éruption, éjection de masse coronale. Donc, les éruptions, je vous ai expliqué, c'est quelque chose qui est localisé dans l'atmosphère du Soleil, au voisinage des régions actives. Et cependant, ça peut quand même, de temps en temps, donner aussi des phénomènes d'éjection de masse coronale. Donc, je vais juste finir en vous montrant quelques observations d'éjection de masse coronale. Et je vais vous dire que donc, cette relation entre les éruptions et l'origine des éjections de masse coronale, c'est toujours l'objet de débats dans la communauté solaire. Donc là, c'est encore des sujets qui sont extrêmement discutés. Alors, si ce film veut bien marcher, voilà, fait un zoom sur une région active du Soleil. Donc là, vous voyez, on se rapproche du Soleil. Voilà la couronne observée en UV. On va se zoomer sur une région au bord où il y a des taches et où il va y avoir une éruption. Voilà ici l'éruption solaire observée donc, au bord du Soleil, l'embrillancement en UV, en rouge et bleu, c'est les rayons X énergétiques liés aux particules qui sont produites lors de l'éruption et qui restent au Soleil. Et vous allez voir qu'à partir de cette éruption, on a une éjection de masse coronale qui part. Vous la voyez, c'est la boucle qui est sur le bord droit. Donc cette éjection de masse coronale, vous voyez bien qu'on a l'impression qu'elle est liée à l'éruption. Donc les éjections de masse coronale, comme c'est écrit sur mon transparent, ça éjecte de l'ordre de 10 puissance 14 à 10 puissance 16 grammes en moyenne par jour. Mais ce n'est pas très important en termes de masse par rapport à quelque chose dont je n'ai pas parlé ici, qui est le vent solaire. Voilà ici donc l'éjection de masse coronale qui continue à se propager. Et puis vous allez voir donc en liaison avec cette éruption, là encore l'arrivée de particules. Donc là on a les trois phénomènes qui sont liés, l'éruption, l'éjection de masse coronale et les particules dans le milieu interplanétaire. Alors ce que vous avez vu là, c'est donc une bulle de matière qui se déplace vers le bord ouest, donc qui se déplace dans un plan qui est perpendiculaire à la ligne Soleil-Terre, parce qu'en fait là on voit le Soleil et la Terre, ce serait la salle ici. Donc cette boule de matière, a priori, elle ne va pas venir vers la Terre. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut voir les éjections de masse coronale qui se propagent vers la Terre et qui peuvent potentiellement nous poser des problèmes. Alors ces éjections de masse coronale qui vont se propager vers la Terre, c'est ce qu'on appelle en fait des halos. Et ce n'est pas très évident à observer à partir des instruments qui sont au niveau de la Terre. Et c'est l'exemple que vous avez, par exemple, sur la figure de droite. À gauche, vous avez c'est une belle éjection de masse coronale qui se propage malheureusement, enfin, ou heureusement, ça dépend pour qui, mais pour, qui se déplace dans le plan perpendiculaire à l'axe Soleil-Terre, et on voit très très bien la boule. Et ici, la bulle de matière, et ici, vous avez donc cette espèce de halo autour du Soleil qui vous montre une éjection de masse coronale qui va venir vers nous. Et c'est la même observation ici. Cette éjection de masse coronale qui va venir vers nous, en fait, elle est liée à une éruption qui est juste au milieu du Soleil. Donc, quand vous voyez des éruptions au milieu du Soleil, une onde de Morton, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on a souvent donc des CME de type halo, ça veut dire donc des bulles de matière qui vont partir du Soleil et arriver au niveau de l'orbite terrestre, éventuellement avoir des effets sur l'environnement terrestre. Et si on s'intéresse aux activités de météo de l'espace, c'est justement ce type de phénomène que l'on voudrait bien pouvoir observer pour pouvoir prédire leur arrivée ou non au niveau de la Terre. Alors c'est difficile en fait à faire à partir donc des coronographes qu'on avait auparavant sur ce haut, parce qu'on est justement au niveau de la Terre et on voit bien ce qui part sur les côtés, mais pas bien ce qui vient vers nous. Mais avec les sondes stéréo, les deux satellites dont je vous ai déjà parlé, on a justement une vision à trois dimensions de l'environnement du Soleil. Et donc, là encore, ce que vous avez ici, c'est le même Soleil vu par un instrument qui est, donc là c'est SDO, donc c'est quelque chose qui est au niveau de la Terre, et puis le Soleil le même jour, vu par les sondes stéréo qui voient les autres faces. Donc là, on peut reconstruire les images à trois dimensions du Soleil. Mais on peut le faire aussi à partir, et ça c'est très intéressant pour observer la propagation des CME, on peut aussi le faire à partir donc des coronographes. Alors voilà ici, donc, ce serait une vision, c'est le Soleil le même jour, mais vu de deux côtés. Donc au milieu, en rouge, c'est la couronne. En vert, c'est un premier champ de coronographe, c'est toujours des fausses couleurs. Hein. Et en bleu, c'est un petit peu plus loin du Soleil. Et l'image du dessus, cette partie qui est proche du Soleil, partie de la couronne qui est proche du Soleil, c'est le petit cercle ici. Et on a sur stéréo des instruments qui permettent de visualiser la propagation des perturbations très loin dans le Soleil, en particulier donc par cet instrument qui est un imageur héliosphérique. Et vous voyez ici donc des variations blanches et noires, parce que ce sont des différences d'image. Et là, ça vous montre donc la propagation de la matière dans le champ des instruments entre le Soleil et la Terre. Et à partir de ça, bon, ça c'est peut-être un peu compliqué, mais à partir de ce type d'observation, eh bien, ici on a le Soleil, ici on aurait la Terre, eh bien, on peut suivre la propagation de ces mouvements et éventuellement prédire l'arrivée des éjections de masse coronale au niveau de l'orbite terrestre. Alors pour vous montrer un petit peu donc, la différence de taille, ici vous avez le Soleil, ça c'est une image d'artiste qui montre une éjection de masse coronale, et là c'est la toute petite Terre. Donc ces gros nuages de matière ionisée qui arrivent sur la Terre, heureusement on a notre champ magnétique qui nous protège, mais ça peut néanmoins créer des effets géomagnétiques. Donc je vais vous passer donc, quand même ce film. Ça c'était l'éruption du 7 juin, observée par un satellite au niveau de la Terre, et là c'est donc vu sur le côté par les sondes stéréo. Voilà, vous voyez la propagation de la matière, l'éjection de masse coronale, dans le champ de l'instrument, très très loin du Soleil. Donc juste maintenant, je vais conclure. Hein. Donc, je vous ai parlé beaucoup d'activité solaire, de champs magnétiques, d'éruption, d'éjection de masse coronale. Donc ça, ce sont des sujets qui intéressent les physiciens solaires. Il y a une partie de notre recherche qui est liée à l'étude des relations Soleil-Terre et au développement d'une nouvelle discipline qui s'appelle la météo de l'espace, parce que en fait, le Soleil va affecter l'environnement terrestre, non seulement par les rayonnements ionisés, ça va avoir des effets sur l'atmosphère de la Terre, mais aussi par le vent solaire et les éjections de masse coronale dont je vous ai parlé, et également les fameuses particules énergétiques qui peuvent arriver aussi au niveau de l'orbite terrestre. En termes d'échelle de temps, enfin de temps de parcours de tous ces phénomènes, si la lumière met 8 minutes pour arriver, donc quand on a une éruption, si on a une augmentation très importante du flux ionisé, on va avoir les effets dans l'atmosphère terrestre 8 minutes après. Si on regarde les particules, dans certains cas, je vous ai montré que les protons très énergétiques, ils peuvent arriver quasiment tout de suite après l'éruption. Donc ça va être très difficile à prédire en termes d'effets de météo de l'espace, hein, parce qu'on a l'éruption et on a presque immédiatement les protons de très haute énergie. Et tout ce qui est lié à la propagation donc des bulles de matière dans le milieu interplanétaire, les échelles de temps, ça va aller, étant donné les vitesses, ces phénomènes vont arriver quelques jours après. Donc, je vais juste vous dire quelques mots sur le futur. Donc, on a quelques projets d'observation du Soleil pour les années 2020-2030. Donc, c'est notre rêve, en fait, nos rêves, c'est de pouvoir envoyer des expériences qui vont pouvoir mesurer l'environnement solaire très très proche dans la couronne, très près du Soleil, de façon à pouvoir regarder de plus près ces phénomènes d'activité, mieux comprendre comment toutes ces perturbations affectent le milieu interplanétaire. Et pour faire ça, en fait, il y a plusieurs projets. Il y a un projet européen qui s'appelle Solar Orbiter, dont vous avez un schéma ici, qui sera en principe lancé en janvier 2017 avec un certain nombre d'instruments pour comprendre encore l'activité solaire, l'accélération du vent solaire, l'accélération des particules. Et puis une mission américaine, Solar Probe Plus, qui, elle, va s'approcher du Soleil à 9 rayons solaires, avec quelques instruments qui vont pouvoir mesurer in situ les caractéristiques de l'environnement très très proche du Soleil. Alors voilà, pour conclure, je voulais dire que j'espère que je vous ai fait passer quelques messages sur l'intérêt d'observer l'activité du Soleil, sur les différentes questions qui nous intéressent, comment est généré le champ magnétique, comment il évolue, comment les particules sont accélérées lors des éruptions, comment les éjections de matière se propagent, est-ce qu'on peut prévoir leur arrivée sur Terre. Ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, on a beaucoup d'observations sur le Soleil et il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Et pourtant, comme le Soleil, c'est un objet de l'univers qui est relativement proche de nous, on a beaucoup d'observations et pourtant, on a encore beaucoup de questions. Enfin, donc, si on comprend ce qui se passe sur le Soleil, je l'ai dit à plusieurs moments, il y a le problème de chauffage de la couronne, de déclenchement des éruptions. Si on comprend ce qui se passe sur le Soleil, eh bien, on peut aussi essayer de comprendre ce qui se passe sur les autres étoiles. On peut comprendre ce qui se passe dans un plasma naturel. Et enfin, c'est important de comprendre comment fonctionne le Soleil, puisque c'est l'étoile qui influence notre environnement. Voilà, je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un peu longue.
Canal Academy vous propose cette retranscription de la conférence de Nicole Villemer, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Elle traitait du Soleil, une étoile magnétique et active, source de particules énergétiques. Pour connaître le programme des futures conférences du Bureau des Longitudes, ouvertes au public, je vous invite à vous connecter sur le site www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute sur Canal Academy et à bientôt pour de prochaines retranscriptions.